dit identification, réfléchissant.
Je te dis, ça veut dire une identification qui réfléchit. Ça veut dire une identification qui est consciente d'être identifiée. Que quelque chose reste de la conscience qui observe. C'est tout.
Monsieur, quand la nature est inactive, comment pouvons-nous dire que l'âme est présente?
Quand la nature est
inactive.
Inactive. Il parle de la nature inactive.
Mais s'il parle de l'homme et nature.
Hein? Ah.
Même dans son inaction, Purusha maintient en lui-même toute la force et toutes les énergies de Prakriti prêtes pour la projection.
Mais c'est pas la nature, Purusha. C'est juste le contraire.
Âme nature, alors qu'est-ce que c'est?
Hein?
Âme nature. Âme, ce n'est pas la Purusha.
Non? Purusha, c'est le témoin.
Alors, quelle relation il y a entre l'âme et la nature?
Il y a une âme dans la nature. Naturellement, je n'ai pas cessé de vouloir que toi. Il y a une âme dans la nature. C'est ce que nous apprend au psychique.
La relation.
Quelle relation? La relation avec qui et avec quoi?
Ici, c'est écrit justement la grande dualité homme-nature. La grande dualité. Il est entré dans une intense perception séparative de la grande dualité homme-nature purusha-prakriti.
Oui, mais il y a l'âme dans la nature. La nature dans la nature, il y a l'âme.
Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase dans le bouddhisme? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase?
Ça veut dire qu'il y a une dualité. Il y a une dualité qui, n'est-ce pas, qui est l'âme et la nature, mais l'âme est dans la nature et la nature exprime l'âme. Je ne saisis pas la question. Quelle est la relation entre les deux? C'est ça que tu demandes. Ça coexiste. Et l'âme gouverne la nature et la nature exprime l'âme. Et c'est dit en tout, en très clairement là.
Mais qu'est-ce que ça veut dire l'âme témoin?
Hein?
L'âme témoin.
L'âme témoin, ça veut dire quand, l'âme entre dans l'état où elle regarde sans faire. N'est-ce pas? Témoin, ça veut dire quelqu'un qui observe ce qui est fait, mais qui ne fait pas lui-même. Alors, quand l'âme est dans l'état où elle ne participe pas à l'action, où elle n'agit pas à travers la nature, ou simplement elle se retire et observe, alors elle devient l'âme témoin. Témoin, ça veut dire quelqu'un qui regarde et qui ne fait pas. Alors, il y a un état de l'âme dans lequel l'âme ne participe pas à ce qui est fait. Simplement regarde et le témoin de ce qui est fait, mais ne participe pas. Si on veut arrêter les activités extérieures, ça c'est le meilleur moyen. C'est de se retirer dans son âme, à l'extrême limite de son existence, dans une sorte d'immobilité. Il a dit, il y a le mot observante, une immobilité qui observe, mais qui ne participe pas, qui ne donne même pas d'ordre. Quand on veut se détacher de quelque chose, d'un mouvement ou d'une activité ou d'un état de conscience, c'est le procédé le plus efficace. On fait un pas en arrière, on regarde la chose comme ça, comme on regarderait une scène, et on n'intervient pas. Alors au bout d'un moment, ça ne nous concerne plus. C'est quelque chose qui se passe en dehors de nous. Alors on devient très tranquille. Seulement quand on fait ça, on ne guérit jamais rien dans le mouvement extérieur. Il reste ce qu'il est. Seulement il ne nous affecte plus. Nous avons dit ça je ne sais combien de fois déjà. Je vous ai dit la même chose. C'est un premier pas seulement. C'est pour arriver à ne pas être troublé par les choses. Mais les choses restent ce qu'elles sont, indéfiniment. C'est une condition négative.
L'aspect séparatiste et le libérateur, est-ce que c'est ça? L'aspect séparatiste et le libérateur, est-ce que c'est ça? C'est juste après.
L'aspect séparatiste
et le libérateur. Ici aussi, il trouve que l'aspect séparatiste est le libérateur.
Oui, il vous libère de, justement de... C'est bien ça, c'est le... On le fait pour ça, n'est-ce pas? Pour la libération. Pour être libre des attachements, libre des réactions, libre des conséquences. Ceux qui comprennent le Gita comme ça, ils vous disent ça. S'ils ne comprennent pas plus loin que ça, ils vous disent ça. Pourquoi voulez-vous essayer de changer le monde? Le monde sera toujours tout ce qu'il est, restera ce qu'il est. Vous n'avez qu'à faire un pas en arrière, à vous détacher, à regarder ça comme un témoin regarde quelque chose qui ne concerne pas. Et c'est fait. Ça a été mon première approche du Gita à Paris. J'ai rencontré un Indien qui était un très grand fervent du Gita. Et qui était un très grand ami du silence. Il disait quand je m'approche de mes disciples, s'ils sont en bonne condition, je n'ai pas besoin de parler. Alors on se tait ensemble. Et dans le silence, on réalise quelque chose. Mais quand ils ne sont pas en assez bonne condition pour ça, alors je parle. Un peu, juste un peu, pour tâcher de les mettre en bonne condition. Et quand ils sont encore en plus mauvaise condition, ils posent des questions. Ça, c'est pour excuser vos questions. C'était une façon de comprendre le Gita. C'était la façon qui dit, qui cite toujours une phrase, je pense, en la tronquant, où il est dit qu'il n'y a pas de feu sans fumée. Et il y a peut-être que il y a un millier d'années ou même 500 ans, et c'était vrai, mais maintenant c'est une idiotie. Alors, on ne peut pas se servir de cette phrase-là pour expliquer les choses. Pourquoi vous tracassez-vous de l'état dans lequel est le monde? Il n'y a pas de feu sans fumée. C'est pas vrai. Mais en fait, c'est un point de vue. Je pense que tous les points de vue sont nécessaires si chacun se tient à sa place et n'essaye pas d'encombrer les autres. S'il avait simplement ajouté mon expérience et comme ça, c'était très bien. Mais il se servait de ça pour critiquer ce que d'autres faisaient, et là, il avait tort.
Ça
veut dire
qu'il
n'est
pas
sincère. Hein?
Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment sincère.
Pourquoi? Il est peut-être sincère dans sa propre conviction. Alors, quand on fait de la propagande, on n'est pas sincère.
Il croit qu'il est sincère.
Non, pardon, il est convaincu. Il avait négligé peut-être par politesse de me dire la quatrième condition qui était encore pire. C'est celle où après avoir posé la question, on commence à discuter la réponse. Celle-là, non, c'est la fin de tout. Si vous arrivez à cette conception que le monde est l'expression du divin dans toute sa complexité, alors la nécessité de la complexité et de la diversité s'impose. Et il vous devient impossible de vouloir convaincre les autres de penser et de sentir comme vous. Chacun doit avoir son mode propre de penser, de sentir et de réagir. Pourquoi voulez-vous que les autres fassent comme vous et soient comme vous? Même en admettant que vous ayez une plus grande vérité que la leur, quoique ce mot ne signifie rien du tout. Parce que, dans un certain point de vue, toutes les vérités sont vraies. Elles sont toutes partielles, mais elles sont vraies, puisque ce sont des vérités. Mais de la minute où vous voulez que ce soit votre vérité qui soit plus grande que celle du voisin, alors vous commencez à sortir de la vérité. Cette habitude de vouloir obliger les autres à penser comme vous pensez, ça m'a toujours paru bizarre. C'est ce que j'appelle l'esprit propagandiste. Et ça mène très loin. Vous pouvez faire un pas de plus et vouloir que les gens fassent comme vous faites, sentent comme vous sentez, et puis alors ça devient l'uniformité effroyable. J'ai rencontré au Japon le fils de Tolstoï, qui parcourait le monde pour le salut de la très grande unité humaine. Mais sa solution était que tout le monde devait parler le même langage, mener la même vie, s'habiller de la même façon, manger la même chose et je ne plaisante pas, il le disait comme ça, je l'ai rencontré à Tokyo, il disait ça, et tout le monde serait heureux, tout le monde s'entendrait, personne ne se querellerait. Si tout le monde faisait la même chose, il n'y avait pas moyen de lui faire comprendre que ce n'était pas très raisonnable. Et il était parti à parcourir le monde pour ça. Et comme quand on lui demandait son nom, il disait Tolstoï. Alors, Tolstoï, n'est-ce pas, les gens, oh. Il y avait des gens qui ne savaient pas que Tolstoï était mort, et alors, ils pensaient, oh, quelle aubaine, nous allons entendre quelque chose de remarquable. Et puis, ils sortaient ça. Eh bien, c'est seulement une exagération de la même attitude. En tout cas, je peux vous assurer qu'il y a un moment où on ne sent plus du tout la nécessité de convaincre les autres de la vérité de ce que l'on pense. Hein?
C'est que je suis. C'est que la vérité que je réalise. Un autre critique, c'est là.
On peut lui dire poliment, mais les bouts qui vous regardent, mais ça doit s'arrêter là. mais vous voulez convaincre quelqu'un qui critique qu'il a tort de critiquer. Plus vous lui direz, plus il sera convaincu qu'il a raison. Oh, vous avez peur qu'il fasse de la propagande à l'envers. Ça ne fait rien. Nous avons eu un exemple comme ça qui était très amusant. Il y a quelqu'un que je ne nommerai pas, qui est venu ici et qui a écrit dans un des grands journaux de France un article absolument imbécile, qui démontrait la stupidité du monsieur, mais qui était extrêmement violent contre la chambre. C'est pas pour ça que je dis qu'il était un imbécile, mais enfin, les deux étaient associés. Eh bien, un des résultats de cet article, c'est qu'on a reçu une lettre de quelqu'un qui a dit « J'ai lu l'article, je veux venir à l'ashram tout de suite. » Ça peut avoir un effet opposé. C'est tout. Nous entrons dans la première phase. Oui.